propose qu'on commence.
Oui. Hop.
Merci, foule nombreuse et attentive. Ça va être intime, hein. Faut pas hésiter à poser des questions parce que du coup...
Ça sera plus convivial.
Exactement. Donc l'idée de cette petite table ronde, c'était de se dire comment est-ce que pour les jeunes auteurs, quelles sont les voies un petit peu pour être publiés ou travailler soit dans le monde du jeu de rôle, soit dans le monde de la fiction et du roman. Alors je vais commencer par ces dames en termes de présentation. Nous avons Neko qui travaille pour 7e Cercle. Boîte de jeux de rôle, que vous retrouverez en bas. Nathalie Do, romancière, elle-même éditrice. Alors pour les romans, elle vient de sortir La Somme des Rêves aux éditions Asgard, et puis elle est également éditrice chez éditions Argemios. Donc elle a la double casquette auteur et éditrice. Et puis au milieu, l'homme qui fait les deux, qui se partage, Laurent Girardon, qui a deux revues, une revue Black Mamba qui publie plutôt de la fiction. Et une revue héros qui est plutôt consacrée au jeu de rôle.
Voilà, enfin aux nouvelles dont vous êtes le héros.
Aux nouvelles dont on est héros. Donc lui aussi va nous parler un petit peu, on va pouvoir voir un petit peu avec lui comment est-ce qu'il choisit ses auteurs. Peut-être, on va peut-être commencer par le jeu de rôle. Quand on est un jeune auteur chez soi,
oui.
Quelle est un petit peu la voie pour travailler dans le jeu de rôle?
Comme dans tout ce qui est écriture actuellement, c'est du freelance de toute façon.
Ouais.
Hein, y a pas de, c'est rarissime en France qu'il y ait de toute façon des auteurs salariés d'une boîte d'édition. Le mieux, c'est de ne pas envoyer, par exemple, son jeu tout prêt, tout illustré, tout maquetté, joué pendant 10 ans avec ses copains. Le mieux, c'est d'envoyer un synopsis du jeu pour voir déjà si le thème intéresse. Parce que c'est vrai qu'en tant qu'éditeur de jeux de rôle, on a tous des goûts différents, ce qui est complètement normal. Et puis, il y a le problème de dire, par exemple, ça peut être publié, mais est-ce que nous, en tant qu'éditeur, on aime suffisamment le projet pour avoir des idées pour le faire illustrer et le présenter voilà, au public, faire la publicité, etc. Et ça, c'est très important pour un jeu, pour un roman, pour n'importe quoi d'ailleurs. Donc, ça ne veut pas dire systématiquement, quand on le refuse, que c'est mauvais, c'est pas publiable. Ça veut juste dire, d'ailleurs on le dit très souvent, on répond très souvent à ce niveau-là, nous on n'accroche pas, mais voilà, ouais. Mais faire un synopsis, oui, on le voyait 300 pages par la poste, ça sert à rien.
Est-ce que il t'arrive de recruter des jeunes auteurs pour travailler avec 7e Cercle?
Oui, des gens qui, en général, qui ont déjà fait soit du jeu amateur, soit... que, par exemple, qui ont travaillé pour des magazines ou des choses comme ça, dont on a pu apprécier ce qu'ils faisaient, où on a eu un bon contact, etc. Et très souvent, qui jouent déjà à certains de nos jeux, donc qui connaissent les univers, qui sont capables d'écrire dessus.
Ça veut dire qu'il y a une partie, enfin un peu ses armes dans le monde amateur, et il y a une partie, on connaît bien la maison d'édition auquel on soumet des projets.
Oui, tout à fait. Après, c'est comment dire, quand on veut, par exemple, travailler sur une extension d'un jeu de rôle, il me paraît relativement nécessaire de bien connaître le jeu en question, le livre de base, d'y avoir joué soi-même, d'être au minimum intéressé par le thème. Enfin, ça va de soi.
Ouais.
Et puis après, il y a pas mal de gens dans le milieu du jeu de rôle qui ont travaillé pour plusieurs boîtes d'édition. Et par affinité, on retrouve sur tel et tel et tel projet. Ça, c'est... voilà.
Je vais te poser la même question, Nathalie. Pour être un auteur édité, quelle est un petit peu la voie et comment est-ce que toi tu sélectionnes les auteurs avec qui tu travailles? Il y a des jeunes auteurs chez toi?
Oui, plutôt en format nouvelle. Mm-hmm. En fait, moi en tant qu'auteur, pour me faire publier, je n'ai pas suivi la voie dont je vais vous parler maintenant. J'ai eu un parcours un peu atypique. Mais en général, les jeunes auteurs... on leur conseille de participer à un maximum d'appels à texte. Il y en a énormément qui tournent tous les ans, que ce soit chez les petits éditeurs ou bien même dans les revues et dans le milieu du fanzina. Et il y a certaines publications dans le milieu du fanzina qui sont de très bonne qualité, avec des équipes qui font un vrai travail de correction, de direction littéraire sur les textes. Donc un auteur qui commence par se faire publier dans ces supports-là forge progressivement sa plume, donc prend conscience de ses forces, de ses faiblesses. On lui conseille aussi éventuellement de participer à des ateliers d'écriture. Il y a notamment l'association Présence d'Esprit qui en organise régulièrement, avec toujours des écrivains confirmés comme animateurs. Donc, ce sont, et puis il y a aussi l'association Cocyclique, qui propose via son forum. Donc en fait, les personnes qui s'inscrivent s'engagent elles-mêmes à bêta-lire les textes des autres pour à leur tour être bêta-lus et bénéficier donc de conseils, de retours sur leurs textes, et puis comme ça pouvoir s'améliorer, corriger leurs défauts et avoir un texte qui ensuite, surtout quand ce sont des projets de romans, qui tiennent un petit peu mieux la route pour pouvoir être proposé à un éditeur. Donc un auteur qui a fait ses armes dans la forme courte, en général, commence à mieux maîtriser son style et peut envisager de s'attaquer à la forme longue. C'est beaucoup plus difficile, mine de rien, de construire une nouvelle que de construire un roman. Parce que dans le roman, on a la place et si on veut faire de la longueur, on peut. Après, on risque de se faire couper des morceaux, mais on peut. Alors que vraiment, une nouvelle, c'est un très très bon exercice pour démarrer, je trouve. C'est très formateur. Et puis, voilà. Après, une fois qu'on a réussi à faire publier des nouvelles, soit en revue professionnelle, soit dans des anthologies d'éditeurs, mine de rien, on commence à être un petit peu connu. Il y a aussi des prix qui sont accordés à certaines nouvelles. Il y a des catégories nouvelles dans de nombreux prix. Il y a des prix réservés aux publications en fanzine, de prix zone franche. Il y en a d'autres qui sont... Donc le format nouvelle est récompensé notamment au niveau du prix imaginal. Donc là, c'est uniquement pour des parutions professionnelles. Mais c'est une forme qu'on essaye de soutenir, mine de rien, beaucoup. Même si chez les gros éditeurs, on va trouver très peu d'anthologies et très peu de recueils de nouvelles, car en librairie, ça ne suit pas. Dans les bibliothèques, ça ne suit pas. Bibliothèques municipales, ça ne commande pas. Et le comité de lecture SF des bibliothèques de Paris m'a dit récemment, c'est plus la peine de nous envoyer les anthologies et les recueils de nouvelles, les bibliothèques ne les commandent pas. Donc ils se concentrent sur les romans. Mais pour l'apprentissage des auteurs, oui, c'est important. Et puis ça permet de découvrir aussi des auteurs.
Toi, quand tu travailles, quand tu reçois un manuscrit, tu es sensible à ce parcours-là en nouvelle? Ou alors c'est parce que tu as repéré des gens un petit peu en nouvelle que tu te dis, je vais nouer un peu contact et voir s'ils ont quelque chose?
Ça m'est arrivé de vraiment accrocher sur des nouvelles. Et lorsque l'auteur me dit, j'aurai un manuscrit plus conséquent, je vais être plus intéressée à lire parce que j'ai déjà vu des échantillons de son travail. Après, évidemment, il faut voir si le synopsis rentre dans ma ligne éditoriale. Mais oui, c'est un plus. C'est pas comme de se retrouver avec d'un seul coup 300 pages écrites par quelqu'un en parfait inconnu qui s'est jamais confronté à une direction littéraire, dont on ne sait pas aussi, parce que ça peut être un frein chez les éditeurs. On a un manuscrit. Comment l'auteur va-t-il vivre la direction littéraire? S'il nous pousse des cris d'orfraie à chaque fois qu'on lui déplace une virgule, ça va être très problématique. Voilà. Parce que un texte est rarement publiable en l'état, même chez un auteur confirmé. Et je peux vous dire que des auteurs bien plus confirmés que moi, au contraire, ils apprécient d'avoir une direction littéraire. Parce que nous, quand on écrit, on est tellement le nez dedans, on manque parfois du recul nécessaire. Et on peut laisser passer une petite incohérence, on peut ne pas suffisamment expliquer un point, parce que pour nous, il est évident, on baigne dedans, sauf que le lecteur, il n'est pas médium, il ne peut pas entrer en connexion avec notre cerveau pendant qu'il lit le livre. Donc nous, il faut qu'on lui donne suffisamment d'éléments, pas trop non plus pour ne pas le noyer, mais suffisamment d'éléments pour qu'il puisse comprendre réellement ce qu'on a essayé de lui transmettre. Et il y a des auteurs, ok, ils nous envoient un truc, c'est prometteur, c'est intéressant, il y a du boulot. Et puis on commence à faire le boulot, c'est vraiment un investissement, on y passe du temps, on y met tout ce qu'on a. Et puis derrière, c'est « tu as osé déplacer ma virgule, hérétique !» À un moment donné, ça passe ou ça casse. Et il y a des fois des projets où ça a tellement clashé avec l'auteur qui refusait tout, et puis qui ensuite me sortait « oui, mais telle personne a adoré ce que je faisais, telle autre a adoré ce que je faisais, ma concierge aime beaucoup ce que je fais. Bon, c'est pas possible, c'est juste pas possible.
Jamais sous-estimer les concierges.
Exactement. Mais donc voilà, quand l'auteur a déjà publié une nouvelle, on sait qu'il a déjà vécu une direction littéraire et que donc il y est peut-être moins réfractaire que celui qu'on connaît pas.
Alors là, on a parlé justement des nouvelles et du travail qu'on commence à faire. Et puis c'est intéressant parce qu'on a Laurent avec nous. Alors Black Mamba, c'est pas pour en parler un fanzine, hein, c'est quand même un cran largement au-dessus.
On dirait un prosine en fait,
ouais,
entre les deux.
très, très clairement. Mais du coup, comment est-ce que toi, tu sélectionnes les nouvelles, et pour héros, qui est plutôt nouvelle dont on est le héros, et pour
Alors, ce sont deux choses complètement différentes, ce sont deux médias très, très différents. Donc c'est vrai, comme disait Nathalie, c'est vrai que pour la nouvelle, nous, on est un peu, à notre niveau, on est un peu un laboratoire, un peu une tribune, donc forcément, on reçoit énormément de textes de jeunes auteurs, des gens qui n'ont pas forcément publié ou qui ont très peu publié, parfois dans des fanzines confidentielles. Donc c'est vrai qu'on reçoit beaucoup, beaucoup, beaucoup de textes, donc soit de, voilà, d'auteurs amateurs, soit d'auteurs très confirmés. Et c'est vrai qu'on a un comité de lecture qui fait un petit peu, entre guillemets, des sélections. Et c'est évident que on ne va pas lire un texte d'un auteur inconnu de la même façon qu'un auteur confirmé. On ne devrait pas, mais on le fait quand même. Donc forcément, comme dit Nathalie, il y a beaucoup de soucis dès qu'on touche en fait à un texte, un auteur qui ne connaît pas un petit peu le cheminement, voilà, de ligne éditoriale. Déjà, respecter la ligne éditoriale, c'est déjà beau, parce que moi je reçois des textes parfois qui n'ont rien à voir ni avec le fantastique, ni avec l'aventure, ni avec la SF, ni avec le policier. Pourtant, on est relativement large. Mais je reçois parfois des recueils de poésie, des trucs comme ça. Donc c'est vrai que le conseil premier pour un auteur, c'est déjà d'essayer d'aller au moins se procurer un numéro de ce qu'on fait, voir sur le site internet un petit peu voilà, ce qu'on attend au niveau même du nombre de signes. Parce que c'est vrai que nous, on a une page où voilà, c'est très carré. Bon, on peut recevoir l'été jusqu'à 50 000 signes, ce qui est énorme, ce qui est pas mal pour une revue. Mais il m'arrive d'ouvrir des documents avec 80 000 signes. Donc déjà, on sait que le jeune auteur n'a pas forcément... je dis jeune auteur, c'est pas par l'âge, c'est par rapport à l'expérience dans le milieu. Et on sait déjà que bon, il ne connaît pas la revue. Donc il y a beaucoup d'auteurs, par exemple, qui envoient tous leurs textes à toutes les revues de l'imaginaire ou même aux revues généralistes. Et c'est vrai que bon, nous, honnêtement, après, on n'a plus le temps, quoi. Donc on prend les gens... moi, il m'arrive déjà d'ouvrir des docs, de jeter des mails avec des textes, parce que parfois, on envoie 10 textes en même temps. Alors qu'on dit bien, on accepte un, deux, trois textes maximum. Voilà, pour la sélection, pour le comité de lecture, on est 3-4 personnes. Et comme dit Nathalie, forcément, après, si un texte nous intéresse, on ne le publie jamais en l'état. Forcément, il y a toujours un relecteur, un correcteur. Donc ça veut dire, pour nous, Jacques Fontelba, qui est quand même connu dans le milieu, qui fait vraiment un vrai travail de professionnel, même si notre équipe est essentiellement bénévole. Et donc plus bon là on est rigoureux effectivement dans la revue. Enfin, nous, ce qu'on essaie de faire c'est on est un prosine mais avec vraiment une ligne et une équipe qui se veut le plus professionnelle. On a une grosse partie illustration, donc on fait la même chose avec l'illustrateur que ce qu'on fait avec les auteurs. Et c'est vrai qu'au tout début on a tendance à accepter des textes un peu moyens quand on démarre. Et puis au fur et à mesure des numéros, au fur et à mesure aussi de la rigueur littéraire, du fait que voilà, on commence un peu à spécialiser, et même nous-mêmes dans l'équipe, on acquiert aussi un autre niveau, ben on devient de plus en plus exigeant. Donc on reçoit beaucoup plus de nouvelles aussi, donc les délais sont très longs, on met du temps à répondre, et c'est vrai que bon, en ce moment-là, on n'a pas le temps, j'ai presque pas le temps de le faire, donc j'essaie d'avoir d'autres lecteurs. Mais voilà, donc la partie Black Mamba, c'est plus, bon, on a beaucoup de textes, hein, et après, bon, je veux dire, au niveau des critères, c'est la qualité du texte, le respect de la ligne, et puis ce qu'on recherche, nous. C'est-à-dire, si par exemple, on a déjà sélectionné 4 ou 5 textes de SF qui vont paraître dans le numéro à suivre, on va se dire, bon, ouais, il va falloir compenser avec un texte polar. Donc là, on va chercher une histoire, une nouvelle polar. De la même façon, s'il nous manque de la fantasy, on va essayer même de proposer un appel à texte ou carrément on a un fichier d'auteurs aussi, parce qu'il y a des gens qui sont là, qu'on connaît, qui reviennent d'un numéro à l'autre, et on leur dit voilà, si tu as quelque chose dans tes cartons, ou si tu comptes écrire quelque chose qui nous intéresse, voilà. Donc ça aussi c'est intéressant. Pour Héros, qui elle est une jeune revue qui publie des nouvelles dont vous êtes le héros, donc là on est carrément sur... nous en fait on cherche des textes. Parce que c'est très compliqué d'écrire des nouvelles dont vous êtes le héros, parce que c'est à la fois création littéraire, à la fois il y a des mécanismes de jeu, un peu comme le jeu de rôle qui interviennent. Donc c'est vrai que c'est pas... Pour tous les auteurs de l'imaginaire, moi j'ai fait des appels à texte. Bon, pour moi, pour eux, c'est pas forcément une littérature qu'ils connaissent, donc les vieux de la vieille, entre guillemets, sont en plus de 50 balais. Bon, ils n'ont pas vocation à écrire ça, enfin, ils ne veulent même pas, quoi. Voilà.
Je te remercie d'avoir dit qu'il fallait avoir plus de 50 ans pour être
jeune. Non, parce que j'ai demandé à des gens qui ont publié, je prends des, un mec comme Claude Ekenn par exemple, je le tanne pour lui dire ouais, vas-y, écris-nous une histoire, et puis il me dit ah non, mais ça c'est pas mon truc, je considère ça comme la sous-sous littérature. Alors venant d'un auteur de SF qui a connu ce que c'est. Que,
le mépris.
Ouais, que le mépris. Alors je dis, attends, Claude, tu peux pas dire ça. Donc voilà. Donc aujourd'hui, les auteurs de héros sont des auteurs qui viennent plutôt du jeu de rôle. Mais le gros souci, c'est est-ce qu'ils ont une qualité littéraire suffisante pour être acceptés en tant que.
Voilà. Le problème, c'est que c'est pas. Enfin, moi, je connais. Enfin, tout le monde dans le jeu de rôle connaît les livres dont vous êtes le héros. Ouais. Enfin, c'est un truc que tout le monde en a eu dans les mains à un moment ou à un autre. C'est quand même. Enfin, moi, par exemple, j'écris des jeux de rôle, je ne vois pas faire ça, parce que c'est ultra technique.
Oui, les
mécanismes, il y a une technique et un mécanisme complètement différent, qui est très rigoureux, et c'est vraiment très différent de ce qu'on fait nous, par exemple.
Oui, c'est vrai que, bon, pour la plateforme,
c'est particulier.
Oui et non, parce que bon, on est quand même assez ouvert à. Et au niveau des mécanismes de jeu, je dirais que les rôlistes vont nous faire des choses très très compliquées au niveau règles de jeu. Mais alors, c'est ce qui les intéresse.
Oui.
Parfois même, j'ai des mathématiciens. Et j'ai des gens qui veulent faire vraiment des trucs. Ils veulent vraiment révolutionner ce qui se fait. Notamment, si on prend la série de Gallimard dans les années 80, pour eux, le défi fantastique, des règles de base, pas d'entendre parler, c'est basique, c'est trop basique. Et à côté de ça, je vais avoir des auteurs imaginaires assez bons au niveau littéraire qui vont se dire ouais, mais attends, c'est quoi l'interactivité? Ouais, je vais lire 2-3 bouquins. Et en fait, ils vont faire des choses à l'inverse hyper simples.
C'est très particulier. Donc, c'est entre les deux. Voilà, et c'est vraiment un créneau qui est particulier.
Et donc, heureusement, Dieu merci, il existe quelques forums d'amateurs de livres dont vous êtes le héros, des gens qui écrivent depuis des années en amateur et qui, en fait, voilà, je vais piocher, moi, en fait. Mes appels à texte sont essentiellement faits sur ces genres de forums, et j'ai à peu près une dizaine d'auteurs, ce ne sont que des auteurs réguliers, qui arrivent vraiment à mélanger les deux. Donc, qualité littéraire et plaisir ludique. Voilà, et c'est vrai que, bon, c'est pas évident. Moi, je sais qu'aujourd'hui, là, je suis un peu embêté, parce que je dois sortir en numéro 5, 6, 7, et je cherche des auteurs. Et pourtant, en plus, on les paye, ce qu'on ne fait pas forcément dans Black Mamba aussi. Et là, on est tellement en demande que. Voilà. Et après, au niveau des contraintes, on est assez large, mais il y a une certaine liberté dans ce qu'on propose. Mais parfois, c'est pas suffisant. Il y a certains qui nous disent oui, mais moi, je vais écrire une histoire de 150 paragraphes. Alors que nous, la limite, c'est 160. Mmh. Donc on se retrouve parfois à des gens qui n'aiment pas les contraintes aussi. Voilà. Donc, c'est plutôt les soucis. Puis les lignes éditoriales aussi. Même si on est très ouvert, bon, il y aura toujours d'autres. Par exemple, là, j'ai reçu quelqu'un qui me dit, ouais, bah, moi, tu vas jouer on va jouer le rôle d'un premier ministre dans un gouvernement. Bon, quand t'es dans l'imaginaire, ou alors quelqu'un qui me dit, bon, ben, alors moi, dans mon histoire, tu joues le rôle d'une fourmi. Bon, voilà. Là, tu te retrouves avec des.
Il y avait bien Weber qui avait fait des livres ouais, pas voilà. Temps sur les fourmis, hein, mais bon, il faut être Weber, je suppose.
Pas, c'est pas voilà. Alors, du coup, il y a donc, comme on essaie de nous ouvrir à autre chose aussi que l'héroïque fantasy, on cherche des histoires un peu crossover, un peu pas mal de science-fiction, d'anticipation, d'aventure, un peu de slasher aussi, on aime bien ça, quoi. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, en plus. On parle beaucoup d'interactivité et c'est vrai que je m'étonne moi-même d'avoir si peu de textes par rapport à ce que peut être la revue et le livre-jeu qui est complètement abandonné par les éditeurs, à la fois les éditeurs de jeux et les éditeurs...
Les éditeurs de jeux de rôle actuels n'ont jamais fait de livre-jeu.
Oui.
C'était fini. Ouais. Et c'était Gallimard qui faisait les livres dont vous êtes le héros. Donc Gallimard qui avait fait quelques jeux de rôle, mais qui avait... vraiment laissé tomber très rapidement. Et actuellement, les boîtes de JDR qui existent depuis longtemps, même, n'ont jamais fait.
Il n'y a que le Grimoire qui veut vraiment défendre le livre-jeu depuis. Encore le Grimoire qui n'est pas non plus assimilé comme forcément une boîte de jeu de rôle.
Non, c'est spécial le Grimoire. Voilà.
C'est vrai que ce sont les seuls à justement aller frapper à la porte de Gallimard pour leur dire il faudrait revenir sur.
Mais si je me souviens bien, c'est la licence Lone Wolf.
Voilà.
Voilà, donc c'est particulier. Ouais, voilà.
Quels sont les... Donc, on est dans le cas d'un jeune auteur qui aimerait se faire publier chez vous trois. Quelles sont, alors déjà, les bonnes règles de base de présentation? On a parlé d'un synopsis, par exemple, chez toi. Quels sont les deux, trois conseils vraiment à donner à des jeunes auteurs qui aimeraient se faire publier? On va commencer peut-être par des cours, on va faire le tour de table.
Ce que je disais, c'est-à-dire envoyer un mail éventuellement avec un synopsis. Mmh. Parce qu'il y a des thèmes qui fonctionnent, nous on est en termes de marché, donc il y a des thèmes qui fonctionnent très très bien, et il y en a qui, hélas, quelquefois on ne comprend pas pourquoi en France ça ne fonctionne pas, il n'y a rien à faire. C'est vrai que si c'est un jeu sur le énième jeu avec des elfes et des nains et qui ont juste des noms différents, chez nous ça va être non. Voilà, de base. Donc on cherche quand même des choses relativement originales. Un synopsis, un petit mail de présentation avec le synopsis en pièce jointe, et puis voilà. Avant de passer, si on est intéressé par le thème, on peut après demander quel est le format dans lequel il veut le faire, puisqu'il y a les lignes de jeu avec livre de base, écran, etc. Puis il y a ce qu'on appelle des bursts, qui sont des livres campagne, où il n'y a pas de background, il y a juste un scénario avec des additions qui permettent de jouer une grande campagne. Et puis ce qu'on appelle des one-shots, c'est-à-dire des livres de 128 pages qui contiennent tout, plus des synopsis pour jouer pendant un certain temps. Voilà, il y a plusieurs formes. Et selon la forme qu'il veut adopter, nous on voit si ça convient ou pas, etc. Après, le contact, comme tu disais, Nathalie, c'est très important, parce qu'effectivement, il faut admettre que ce qu'on envoie, ça va être... Alors, je ne parle même pas de la correction orthographique, ce genre de choses, mais mettre tel chapitre à tel endroit plutôt que tel autre, etc., parce que ça convient. Un jeu de rôle, c'est un peu différent quand même d'une nouvelle ou d'un roman. C'est ce qu'on disait hier, c'était c'est vous donner les bases pour que vous soyez l'auteur d'une histoire. Voilà, donc il faut vraiment que la personne qui prend le livre de jeu de rôle puisse se projeter à l'intérieur et imaginer sa propre histoire à partir de ce qu'on donne. Donc les chapitres ne sont pas systématiquement dans le bon ordre, etc. S'ils n'acceptent pas ça, c'est pas possible.
Nathalie, pareil, quelques conseils
déjà,
de présentation
pour... Oui, tout à fait. Déjà, se renseigner sur les lignes éditoriales de l'éditeur, en lui envoyant des ouvrages qui correspondent, se renseigner aussi sur les conditions d'envoi. Par exemple, chez Argemios, nous ne prenons que des fichiers électroniques. On ne prend que des soumissions par mail et on reçoit régulièrement du papier. Le papier, c'est simple, on ne le lit même pas. Et on n'est pas les seuls dans ce cas-là. Il y a d'autres éditeurs, ça va être l'inverse. Les mails, ils n'en veulent pas, ils veulent que du papier. Bon, moi, je trouve que le papier, ça pèse lourd, c'est cher. J'ai pas les moyens de faire des photocopies pour envoyer ensuite dans le monde entier à chacun des membres de mon comité de lecture. Avec un mail, un fichier. C'est simple. S'il nous plaît et qu'on le trouve publiable, on va le retenir. Et donc, ensuite, on va publier l'auteur. S'il nous plaît pas, on va pas le publier et on va sûrement pas lui pirater. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont très très peur d'envoyer leur manuscrit sous forme électronique en se disant « je vais me le faire voler ». Déjà, c'est un peu beaucoup de la légende urbaine, les vols de manuscrits par les éditeurs. Enfin, personnellement, je n'ai encore jamais vu. Et je n'ai jamais été pillée non plus. Voilà. Donc, respecter quand un éditeur il dit « tel format, tel type de police, tel type de présentation dans votre fichier », il faut essayer de respecter. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui n'en tiennent pas compte. Donc, parfois, on passe outre et on lit quand même. Parfois, on en a tellement marre de se dire... On explique les consignes, on les met là, là, là et là, personne ne les lit. Quoi ça sert? Et une autre chose importante, c'est lire. Lire beaucoup de tout. Lire aussi les livres de la maison d'édition dans laquelle on aimerait être publié, pour voir déjà si on s'y harmonise. Puis pour... c'est très curieux, mais il y a plus de gens qui écrivent que de gens qui lisent. Or, pour devenir un bon écrivain, il faut d'abord avoir beaucoup lu. Donc, celui qui arrive en disant « voilà, j'ai 15 ans, je vous envoie un roman que j'ai écrit il y a 3 ans, et qui en plus ne lit pas », il ne faut pas qu'il attende grand-chose, en fait. il y a très très peu de chances qu'il soit retenu.
C'est pareil dans le jeu de rôle. Hein. On a beaucoup de gens qui jouent depuis 10 ans, 15 ans au même jeu, le leur, et qui ne savent absolument pas ce qui existe actuellement sur le marché, ou ce qui a même existé il y a 5 ans, ce qui se vend, ce qui ne se vend pas. Donc le premier conseil, c'est d'aller dans une boutique de jeux de rôle, hein, et de tester des jeux. Il y en a en démo, etc. Voir ce qui se fait, ce qui ne se fait pas. Et caler ce qu'on a écrit, si possible, dessus. Parce que si c'est publié et que c'est dans un magasin de jeux de rôle, c'est que quelque part, les gens y jouent. Voilà. Et la lecture, c'est pareil. Alors là, ça...
Quels sont les petits conseils?
Alors, outre le fait de bien cerner la ligne éditoriale, se procurer quelques exemplaires pour voir un peu ce qu'on fait, dans le message, être très synthétique. Moi je reçois des gens qui vont me prouver par A plus B en me faisant un gros pavé que leur œuvre, leurs nouvelles sont les meilleures de la Terre. La plupart du temps, je pars avec un a priori. Et c'est plus fort que moi. Donc souvent être synthétique, juste dire voilà, je vais y recevoir de nouvelles de science-fiction, etc., etc. Et après, effectivement, la présentation même du texte, donc soit en PDF, soit en Word, soit en. Enfin, fichier texte, quoi. Et puis, c'est vrai, l'ouvrir et puis se rendre compte, effectivement, qu'il y a les coordonnées de l'auteur, que c'est bien justifié, voilà, que ça soit visible, déjà. Se dire, bon, voilà, il a relu son texte avant de l'envoyer. Et après, le gros conseil, c'est s'armer de patience. C'est-à-dire, voilà, c'est nous relancer, ne pas hésiter à nous relancer. C'est vrai qu'on le dit, voilà, si au bout de 4 mois, 5 mois, 6 mois, on n'avait pas de nouvelles de nous, relancez-nous. Par mail, parce que c'est vrai que bon, il y a tellement de choses, on n'y pense pas. Donc, c'est vrai que moi, dès que je reçois une relance, au bout de 6 mois, la plupart du temps, je prends le texte et puis je fais en sorte qu'on le lise assez rapidement.
En termes de quantité, combien tu reçois de nouvelles, toi, à peu près par mois, par semaine?
Par semaine, je dois recevoir à peu près 5 auteurs à peu près. 5 auteurs, ça peut être 15 textes. Quoi.
Ouais, et tu en publies combien?
J'en publie.
Dans chaque revue de.
Chaque combat, à peu près entre 5 et 6.
Je vous donne à peu près la proportion du nombre de textes reçus. Il est pareil, Nico? Combien vous recevez à peu près?
Je ne sais pas, parce que j'ai en plus les mails des illustrateurs, là j'en ai énormément.
Ouais.
Énormément. Ça c'est le plus fort. Et puis je pense que depuis qu'on existe, depuis 12 ans qu'on existe, les gens commencent à savoir que. Voilà, on va plutôt publier ça, donc on n'a pas systématiquement, on rencontre pas mal d'auteurs par contre dans les conventions, etc., qui nous parlent directement et on leur dit bah oui ou non directement. Donc j'en ai beaucoup moins actuellement. Et puis, comme je réponds plus, un petit peu comme toi quand je reçois des 300 pages papier, sans s'être annoncé, sans quoi que ce soit, ça s'est calmé. Mais là, j'en avais quoi? Le mois dernier, j'en ai eu 2 ou 3.
Ouais.
Voilà. Par contre, des illustrateurs.
Et pour combien de publications?
Un. Et non, moi, je suis du bol. Ouais, il y en a peut-être 2. Mais il y en a un, c'est triché. On avait déjà travaillé avec lui. Donc, c'est pas exactement un nouveau venu, mais il y a un nouveau venu.
Et toi, Nathalie, combien tu reçois de manuscrits?
Je vais rebondir d'abord sur la lettre d'accompagnement, parce que c'est un vrai problème. On a trop d'auteurs qui nous racontent leur vie dans leur lettre d'accompagnement, qui nous expliquent qu'ils sont orphelins, que leur père est mort, qu'il faut absolument qu'on les publie pour que leur papa soit fier d'eux dans le ciel, ils nous prennent pour des psys, ils nous disent aussi « je vous envoie mon roman, je ne sais pas écrire, mais vous êtes éditeur, vous allez m'apprendre ». Non, on n'est pas là pour ça. Donc y a plein de confusion dans l'esprit des gens sur ce qu'est un éditeur. Et ces lettres d'accompagnement, c'est vrai que c'est pas l'auteur qu'on juge, c'est pas sa vie qui nous intéresse. On n'est pas éditeur de biographie ou d'autobiographie, c'est vraiment son histoire. Donc ses coordonnées pour qu'on puisse le contacter, une présentation rapide de son texte, éventuellement de son parcours, s'il peut nous dire, se targuer déjà de publications sérieuses, ça suffit largement. Il n'y a pas besoin de... Sinon, combien j'en reçois en théorie, je suis supposée plus en recevoir parce qu'on a déjà reçu tellement de manuscrits, alors qu'on publie entre 3 et 5 ouvrages par an, toutes collections confondues, que là, j'ai mon planning qui est blindé pour les 5 années à venir. Donc, je ne vais pas continuer à lire des manuscrits pour dire à des auteurs « je vous prends, mais je ne peux pas vous publier avant dans 6 ans ». c'est pas sympa pour eux, c'est pas juste qu'ils aient à attendre autant. Donc en théorie, je suis supposée ne plus rien recevoir. J'ai marqué noir sur blanc partout, je ne prends plus de manuscrits, sauf les nouvelles dans le cadre des appels à texte. Et je continue à recevoir des manuscrits quand même. Donc c'est plus moi qui les reçois en direct en théorie, j'ai pris un bodyguard. Parce que j'en avais un peu marre de me manger des insultes chaque fois que je faisais un refus. Et puis même des menaces, hein. Il y en a un, j'ai dû prévenir la gendarmerie quand même. Il y a des choses très sympas. Et donc, je ne sais pas exactement combien il reçoit, mais on doit en recevoir facile encore 5 par semaine, à peu près, alors qu'on est fermé. Donc, je ne vous dis pas quand on rouvrira. Donc 5 par semaine, on en publie 3 par an, 3-4 par an. Et pareil, on est saturé par les soumissions des illustrateurs.
Et puis, c'est ce qui est absolument ahurissant, parce qu'en fait, nous, dans le jeu de rôle, l'illustration, c'est quand même ce qu'on voit en premier, enfin le truc. Et on reçoit des choses que moi, je suis capable de dessiner avec les pieds dans le noir. Et Dieu sait si je dessine mal. Et c'est, je sais pas, c'est juste un coup d'œil à ce qu'on fait, et voir si le style correspond à ce qu'on fait, sinon c'est pas la peine. Voilà.
Donc là, on a parlé de la soumission, on a parlé de tout un tas de choses. Le texte est assez bon pour être retenu chez vos différentes maisons d'édition. Concrètement, comment ça se passe? Quel est le travail? Qu'est-ce que vous allez faire avec l'auteur et le texte? Alors, on reprend écho.
Tu parles d'un texte d'un jeu?
Oui, d'un jeu. Là.
Faire rédiger un supplément d'un jeu déjà existant. C'est parce que c'est absolument pas du tout la même chose.
Il y a un projet qui t'intéresse.
Voilà.
Comment tu...
Eh bien, d'abord, je lui demande ce qu'il veut en faire. C'est-à-dire, est-ce que c'est toujours pareil? Est-ce que c'est une prévision d'une grande gamme avec un écran, etc. Est-ce que c'est vraiment... On se voit en général dans le texte. Hein. Ouais. Et en général, on commence à le lire, à lui dire, est-ce qu'on peut changer ça? Est-ce qu'on peut changer ça? On lui fait des propositions. À tout moment, on peut arrêter. Quand on est d'accord, il y a un contrat d'auteur avec pourcentage, etc., qui est signé. Et on décide d'une date de publication. Moi, j'aime beaucoup travailler directement avec les auteurs au niveau des illustrations, leur demander comment ils voient les choses. Pour moi, après, choisir tel ou tel illustrateur avec lequel je travaille habituellement. Et avec l'auteur, faire des commandes. Je demande souvent l'approbation des auteurs. Je dis, tiens, regarde, est-ce que ce dessin te convient? Est-ce que ça, etc. Et puis, voilà. Édition, exemplaire d'auteur et signature sur les stands.
Très bien.
Si tout se passe bien.
Ouais, voilà. Alors, en littérature, les amis, je veux commencer.
Vas-y.
Bon, pour Black Mamba, c'est particulier, effectivement. Dès qu'un texte est validé par le comité de lecture, nous, on fait de la nouvelle illustrée. Donc là, après, on cherche un illustrateur, en fait, pour illustrer le texte. Et c'est vrai que tout dépend, en fait, de la nature du texte. Donc on a en fait une liste d'illustrateurs avec des styles complètement différents. Et c'est vrai que bon, si c'est un texte de fantasy, je sais que je vais proposer à un panel d'illustrateurs qui pourraient le faire. Après, tout dépend de la taille du texte. Si c'est un texte assez long, qui dépasse 35 000 signes, bon, il y aura 5 illustrations. Si c'est un texte de 10 000 à 15 000 signes, il y en aura 2, 3. Voilà, et on travaille en fait sur des parties, sur des moments clés. Surtout pour ne pas illustrer quelque chose qui pourrait... dévoiler une partie de l'intrigue de la nouvelle. Donc voilà, donc ça c'est un travail quand même qui nous prend énormément de temps. Je dirais presque que c'est le travail le plus long, de travailler avec des illustrateurs. C'est pour ça que la revue nous prend énormément de temps pour un exemplaire. Donc on multiplie ça par 5 hein, chaque fois pour chaque numéro. Et c'est vrai qu'après, bon, nous on signe une entente de publication pour les novelistes. Même chose pour les illustrateurs. Et après, bien sûr, il y a toutes les étapes. De correction finale, donc tout ça c'est juste avant de sortir en BAT, il faut que tout soit nickel, voilà. Mais c'est vrai que bon, pour revenir un petit peu à aujourd'hui, après 21 numéros, quels sont les auteurs qu'on accepte, c'est vrai que la plupart du temps maintenant, je dirais presque on s'écarte un peu de ce qu'on faisait au début, c'est-à-dire qu'on travaille presque maintenant qu'avec des auteurs confirmés ou qui sont dans le milieu et qui ont déjà publié 2-3 nouvelles, donc c'est vrai que c'est bête de dire ça, mais on prend moins de risques en fait maintenant. Mais d'un autre côté, quand on se prend quelques critiques sur la qualité des textes, parce que nous le but après, quand on va sortir des romans ou des recueils ou des anthologies, c'est d'accompagner les auteurs de nouvelles qu'on a déjà publié 2-3 fois sur des projets de romans, projets de recueils. Et donc forcément, c'est un peu suivi quand même. Hein, donc on peut sur nos sommaires trouver quand même les auteurs qui reviennent. Voilà.
Nathalie.
Alors, quand un texte a su nous séduire, la première étape, c'est de se dire quand est-ce qu'on va le publier celui-là, où est-ce qu'on va le placer dans le planning, en essayant d'estimer le volume de travail, parce que il peut arriver qu'on reçoive un manuscrit qui demande très très peu de retravail. Je pense que, notamment à celui de Chantal Robillard que j'ai eu et qu'on a lu rapidement, parce que ça s'est trouvé. Il y a des moments où on est plus disponible pour lire qu'à d'autres. Et qui, au final, deux, trois coquilles, la maquette, et c'est bon. Il y a très peu de travail. Donc là, ça peut sortir très vite. Et il y en a d'autres où il y a vraiment un gros travail d'accompagnement de l'auteur. Il faut qu'il réécrive des parties, il faut qu'il modifie des choses, qu'il enlève des bouts. Enfin. Donc là, ça prend plus de temps. Et il faut aussi déterminer qui, chez nous, va le diriger. Parce que je ne peux pas tout faire. Je ne suis pas encore un poulpe. Donc, j'ai plusieurs directeurs d'ouvrage qui travaillent avec nous. Alors, eux, ils sont payés. Moi, non. Eux, ils ont un pourcentage sur les ventes pour les rémunérer de leur travail. Donc, en fonction de leur disponibilité aussi, puisque c'est quand même des gens qui ont un travail à côté, donc qui font ça sur leur temps libre. On peut se dire, bon ben voilà, dans celui-là, on l'a retenu, allez, dans 2 ans, il devrait être prêt. En fait, c'est même plus long que ça. Et puis, on a eu aussi le cas de directeurs d'ouvrage qui, en cours de route, nous disent, on n'arrive pas à dégager le temps, j'accroche pas forcément avec l'auteur, donc on peut être amené à changer. Mais en tout cas, le contrat est signé avec l'auteur, on va faire du travail, le livre paraîtra. Donc une fois que le livre est dirigé par le directeur d'ouvrage, il arrive chez moi. Donc moi, je le relis et je le maquette. Tout en le maquettant, je fais une première phase de correction, puisque j'ai aussi des activités de correctrice freelance pour d'autres maisons d'édition. Je fais une première lecture correction. Éventuellement, je peux voir des petites choses qui ont échappé au directeur littéraire, des fois des petites répétitions ou des petits mots qui ne sont pas forcément appropriés. Et je recontacte l'auteur pour lui signaler toutes ces choses-là. Et je l'envoie chez des relecteurs qui relisent encore pour vérifier, traquer les éventuelles coquilles qui auraient pu m'échapper. Parce que comme on n'a pas tous le cerveau formaté pareil, on ne voit pas les mêmes fautes. Donc du coup, moi je croise toujours au moins 2 lectures, voire 3 si on peut, sur les manuscrits pour essayer d'éliminer un maximum de coquilles. Et après, donc je saisis tout ça dans la maquette, je fais un fichier au format PDF que j'envoie à l'auteur, et l'auteur doit le lire. C'est son boulot. Il y a des auteurs qui disent c'est bon, l'éditeur est passé derrière. Non, il faut le lire. Parce qu'il peut rester des coquilles, parce que l'auteur a encore le droit à ce stade-là de changer d'avis sur certaines choses, d'avoir ce qu'on appelle les remords d'auteur, de dire « Ah, mais finalement, j'avais écrit ça, mais en y repensant, j'aimerais mieux l'écrire comme ça. » Donc, il ne va pas nous retravailler des chapitres entiers, mais un petit bout de phrase par-ci, un petit bout de phrase par-là, aucun problème. Et puis, une fois que c'est bon, que nous, on a un fichier qui correspond aux attentes de l'auteur et à nos attentes à nous d'éditeurs, l'auteur nous donne son bon à tirer. Parce qu'on a, déontologiquement, on n'a pas le droit de publier si l'auteur ne nous a pas donné son bon à tirer. Et malheureusement, il y a des éditeurs qui parfois ne respectent pas ça. Donc on se retrouve avec un texte publié, on n'était même pas au courant qu'il allait sortir. Ça fait toujours spécial. Ça m'est arrivé. Et donc il y a le bon à tirer. Bah après, ça part en fabrication.
Une petite question. Faut-il forcément être original quand on a un jeune auteur pour vous séduire ?
Original, pas forcément, mais avoir sa propre personnalité. Et si c'est pour nous proposer la 10e réécriture du jeune héros qui va dans l'école de sorciers, qui est né dans une famille de moldus et qui s'appelle plus moldu, voilà, ou la 1000e quête de compagnie qui a un objet maudit qu'il faut aller détruire pour empêcher le mal de, ça c'est pas intéressant. Il faut quand même que l'auteur il apporte sa propre histoire. Donc super original, non, mais pas le plagiat de quelque chose qui existe.
Pareil.
Oui, mais c'est pareil, c'est entre les deux. Il ne faut pas que ce soit, comme je disais, la énième histoire avec des elfes et des nains. Alors, ça dépend. Il peut présenter ça de façon dans un décor complètement original et que ça change pas mal de choses. Mais en général, si c'est dans un cadre Medfan hyper classique, il y en a, mais dans le jeu de rôle, on n'a connu que ça pratiquement. ça, c'est pas la peine. C'est, voilà, c'est dommage, mais c'est pas la peine. Par contre, là aussi, il y a des codes dans le jeu de rôle qui... alors, dans le jeu de rôle, je dirais, je veux pas dire ça, mais dans le jeu de rôle qui se vend, je suis désolée de le dire, mais les joueurs sont très classiques. Et il y a eu un tas de tentatives, par exemple, pour remplacer les dés. Voilà, ça c'est, je reconnais que ça peut être très très bien. C'est très difficile à vendre. Voilà, la majorité des joueurs veulent lancer les dés sur la table.
On est très attaché à nos brouettes de dés.
Et voilà. Alors, on peut remplacer par des jetons de poker, on peut remplacer par un tas de machins, des cartes. Moi, j'étais tombée sur un jeu avec un système de cartes. On prenait des cartes à jouer toutes simples. Et en plus, on pouvait, c'était très sympathique parce qu'on pouvait justement gérer sa difficulté, une action pas trop difficile, on ne mettait pas des cartes. Voilà, on pouvait vraiment gérer le truc. Ça ne marche pas. Voilà, c'est tout, ça s'arrête là. Donc on est vraiment désolé, effectivement. Au niveau des systèmes, l'originalité n'est pas systématiquement payante.
Et toi, Laurent ?
Pour héros, je dirais oui, il vaut mieux être original. Parce que c'est vrai que, comme les livres dont vous êtes tous les héros ont sorti quand même essentiellement 90% d'Heroic Fantasy, parfois avec un style qui était un petit peu à déplorer. Effectivement, moi, ce que je recherche en tant qu'éditeur sur ces nouvelles, c'est vraiment l'originalité déjà de genre. Voilà. Donc effectivement, je serais plus attentif à un western, à une histoire de pirate, qu'à forcément l'histoire de fantasy qui a été traitée par 1000 auteurs. Donc là, oui.
La fourmi, non.
Là, tu empiètes sur la ligne éditoriale. Puis bon, voilà. Après, pour Black Mamba, je dirais que pour un jeune auteur original, non, pas forcément. Par contre, il y a un truc qu'on n'a peut-être pas dit, c'est que c'est effectivement, pour apprécier un texte, c'est très, très 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 rapide. Moi, je sais qu'au bout de trois pages maximum, je sais que l'auteur, je le publierai ou je ne le publierai pas, ou j'ai envie d'aller un peu plus loin dans le texte. Donc c'est vrai qu'on...
En fait, c'est très facile pour les textes vraiment très mauvais et pour les textes vraiment très bons.
Voilà.
C'est quand, dans l'entre-deux, c'est plus difficile de prendre une décision.
Et la plupart du temps, comme on reçoit beaucoup de textes, c'est vraiment... Ouais. Le choix est vite fait.
Il nous reste une petite dizaine de minutes. Est-ce que vous avez des questions à leur poser ?
Proposez, allez-y, si vous avez un synopsis et une lettre d'accompagnement, c'est le moment.
Moi, c'était les noms des revues. J'ai pas bien entendu pour les revues qui font des appels à texte.
La revue Black Mamba.
Black Mamba, oui.
Voilà, et pour les livres-jeux, Héros.
Mais vous en avez plein d'autres, hein. Oui, autres que les nôtres.
Oui,
Là, c'est les deux revues qu'il édite lui.
Ouais.
Voilà.
Il y a d'autres.
Oui, moi, j'aurais plusieurs questions, mais je reviens un peu sur ce que vous avez dit tous les trois. Vous avez parlé de reprendre des systèmes qui existent mondialement, énormément, c'est-à-dire reprendre les orques, les trolls et tout ça. Mais qu'est-ce qui vous donne l'envie d'accepter ou pas un supplément à un jeu genre Delhi? Il y a eu Delhi, après il y a eu Mystara, dans ce genre-là. Qu'est-ce qui vous donne l'envie de.
Alors, c'est le projet de l'auteur de base. Par exemple, Humanidine, un jeu de super-héros un petit peu décalé qu'on avait publié. L'auteur voulait faire un one-shot. On lui a proposé de mettre l'écran de jeu en même temps. Voilà. C'était le deal avec l'auteur. Il n'était pas question. Et après, il faisait en PDF un magazine lui-même, qu'on appelait l'Humanidine, et qu'il gérait tout seul. Voilà. Donc, il gérait avec des PDF gratuits pour les joueurs. Et il n'y avait que le livre de base avec l'écran qui était fait. Après, il y a des jeux à gamme, où il y a le livre de base, l'écran, et nous, on travaille en gamme fermée, parce qu'on estime que 5 suppléments, c'est largement suffisant. On a tout dit d'ailleurs, à ce niveau-là. Et à ce moment-là, c'est décidé, dès la création du livre de base, ce qu'il va y avoir comme supplément, et ce qu'il va y avoir dans les suppléments. Voilà, pas automatiquement de façon détaillée à la ligne, mais au moins ce qu'on appelle le chemin de fer, le sommaire, en gros, hein, plus ou moins détaillé. Donc ça se décide, il y a des systèmes, par exemple un jeu héroïque, hein, par exemple Yggdrasil, va avoir besoin, les joueurs vont demander, parce qu'ils le veulent, une campagne, c'est systématique. Ils vont demander à ce qu'il y ait suffisamment de synopsis, de PNJ, de tas de choses pour créer leur propre scénario, s'ils veulent le faire. Donc il est nécessaire d'avoir à ce moment-là 5 suppléments, voilà, au minimum. Voilà. C'est vrai que les jeux contemporains, par exemple, qui se passent dans le contemporain, qui se passent dans les trucs de super-héros, etc., se prêtent plus facilement à tout ce qui est one-shot. On a plus de mal à créer des suppléments qui se vendent aussi. Il y a un marché des jeux de rôle. Je ne parle pas du tout du côté amateur où on peut mettre des choses en PDF, faire de l'auto-édition, etc. On parle de ce qui se vend en boutique. Moi, c'est la seule chose qui me concerne. Il y a des choses qui sont extraordinaires, qui ne se vendent pas. Donc, on ne les édite pas. Des formes qui sont extrêmement bien, lesquelles je peux jouer chez moi si j'en ai envie, mais qui ne se vendent pas. Donc, nous, c'est l'expérience, c'est d'avoir 12 ans de vente dans les magasins. C'est à peu près ce qu'on va pouvoir proposer, ce qui va marcher, ce qui ne va pas marcher. On a essuyé des plâtres avec des choses que nous, on adorait et qui n'ont pas marché. On a été obligé d'arrêter parce que ça ne se vendait pas. Même si nous, on trouvait ça purement génial, ça reste que notre avis et pas automatiquement l'avis de la masse de gens qui achètent dans les boutiques de JDR. Donc c'est pour ça que pour les systèmes, c'est pareil. Moi, je trouve ça super sympa de remplacer quelquefois les dés par d'autres accessoires. L'expérience a prouvé que, hélas, la majorité des... Enfin, hélas, c'est comme ça. La majorité des gens ne le prennent pas. Et c'est pareil pour tout le reste. Comment on détermine qu'un jeu va être un one-shot ou Alors, très souvent, l'auteur nous le présente comme ça aussi. Voilà, j'ai fait un one-shot, j'ai fait un burst. Je veux faire une gamme de jeux complètes. Et là, on lui dit, vu le thème, ça va marcher ou ça va pas marcher. C'est vrai que c'est pas évident à expliquer parce que il n'y a pas de règles pures. Je peux pas faire un article en disant, voilà, ça marche, ça marche pas, etc. C'est un peu au feeling. Il y a des modes aussi. Z-Corps, un jeu qu'on a fait sur les zombies, est né parce qu'on est allé voir un magasin et le magasin nous a dit « Au fait, il n'y a rien pour les zombies, on nous en réclame tout le temps. » Ah, tiens, pourquoi pas ? On a cherché deux ou trois auteurs qu'on connaissait qui sont fans de ce genre de film. On a commencé à chercher un système, on nous a posé la question au mois de mars, on l'a sorti en octobre. Voilà, parce que ça claque, tout s'est déclenché. Donc il y a pas vraiment de... Je pense qu'il faut énormément lire, il faut énormément voir ce qui sort, il faut être attentif à tout ce qui se fait, les séries, les films qui sortent, les livres qui sortent, les modes. Si c'est pour faire un énième Twilight, c'est pas la peine non plus. Mais il faut être attentif à ce qui est dans l'air du temps, quoi, aussi. Et ça change beaucoup de choses.
Moi, je raisonne pas pareil pour les livres.
C'est pas la même chose.
C'est pas du tout la même chose. Mais il y a des éditeurs qui vont raisonner comme toi. Mmh. Pour les livres, ils vont dire, par exemple, voilà, là c'est la mode de la bit.ly, allez hop, on va faire bit.ly.
Ouais.
Voilà. Et puis après, ça change, donc on va faire autre chose. Et moi, vraiment, ce que je regarde, c'est la qualité du livre. Est-ce que ce livre mérite ou pas d'être publié, de rentrer dans le paysage littéraire français, dans le patrimoine littéraire français? Et je sais très bien que parfois, il ne va pas rencontrer son lectorat tout de suite, que ça peut être très long, mais je suis suffisamment petite et modeste, on va dire, pour prendre le temps, pour accorder à un livre le temps. Je veux dire, je ne vais pas l'envoyer au pilon sous prétexte que j'en ai vendu que 100 sur un tirage de 400 en 3 ans d'existence, pour ce titre-là. Il prendra son temps, petit à petit, même si j'en vends un...
En même temps, le marché n'est pas le même du tout.
Non, parce que je suis vraiment dans une niche au sein d'une niche.
Oui, tout à fait.
Je fais de la fantaisie et du fantastique et du juste à la limite entre, enfin, de l'onirisme, je veux dire, qui est vraiment réservé aux lecteurs exigeants, qui sont en recherche de grande qualité littéraire, d'écriture travaillée, de vraies voix, et en même temps d'auteurs qui se nourrissent de mythes, légendes, folklore, voire d'histoire. Parce qu'on a aussi du roman historique avec une touche de fantastique.
Justement, là-dessus, c'est non seulement ton marché n'est pas le même, mais en plus, il faut bien dire une chose, le jeu de rôle, ce n'est pas de la littérature, ce n'est pas des romans. J'entends dire « Ah ouais, mais ça, c'est pas tout à fait stylé comme... » Non, mais c'est bon, c'est un jeu, c'est pour jouer. Alors, il faut que le style soit agréable à lire, qu'il soit compréhensible, mais les grandes envolées lyriques, moi, dans un jeu de rôle, personnellement, c'est non.
C'est pas
fait pour. Alors, il y a des nouvelles. Très souvent, on met des nouvelles pour accompagner, etc. Là, ça peut donner le style du jeu qu'on veut, mais c'est pas un roman. point. Il faut que ce soit une boîte à outils que vous puissiez utiliser et faire votre roman à vous autour de la table avec les protagonistes de l'histoire. C'est pas nous qui la créons, l'histoire. Donc c'est complètement différent à ce niveau-là. Et on demande, enfin moi je demande un style de qui est beaucoup plus sévère peut-être à ce niveau-là. Et ce que je demande à un livre, parce que je lis énormément, j'adore ça, mais je ne demande pas la même chose à un livre qu'à un livre de jeu de rôle. Ça, c'est clair.
Exactement.
On va s'arrêter là parce que le temps imparti est terminé. On va les remercier. Vous pouvez les retrouver en dédicace, donc le 7e cercle, le stand Mac Mamba, et puis Nathalie dans le pôle fiction pour les ouvrages de sa maison d'édition et ses ouvrages à elle. Merci à eux, et puis merci à vous d'être venus.
Merci.